Europe 1, 13h, 14h, le carnet du monde.
Carnet du monde.
Dnevniki mira.
Europe 1,
Europe 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour feuilleter ensemble les carnets. Je vous emmène écouter le monde changer, entendre comment on vit ailleurs. Avec un gros coup de projecteur sur les conséquences économiques et sociales de la pandémie, on ira dans trois pays. La Chine d'abord, dont la croissance a dégringolé, et les Chinois découvrent le chômage de masse. Mais pas question d'en parler, pas question de se l'avouer, ça ne colle pas avec le récit officiel. On ira aussi au Japon, où la pauvreté augmente fortement. Et ce qui est nouveau, c'est que ça se voit et que les Japonais s'en préoccupent. On verra comment l'Afrique du Sud est face à une équation impossible. Choisir entre deux mots, la propagation du virus ou toujours plus d'inégalités. Pour l'instant, c'est un peu les deux. Et puis, du Sud, on filera vers le Grand Nord, en Norvège, où il n'y a pas de cas de coronavirus, mais où le tourisme s'est quand même arrêté net. Comme partout, on appellera Jérôme, un auditeur des carnets, qui est aussi guide là-haut au Cap Nord. En plus, les journées sont longues en ce moment, très longues, c'est le soleil de minuit. Nicolas Carreau a passé un coup de fil à Adeline Dieudonné. L'auteur belge prépare enfin son second roman, alors que le premier a affolé tous les compteurs. Et puis Joseph, fidèle au poste, passera une tête dans les débarras. Vous savez, ces pièces où s'entasse souvent un bric-à-brac intéressant. Les carnets du monde sont ouverts et on prend la direction de Pékin.
Les carnets du monde sur Europe 1, Sophie Larmoyer.
Elle a beau avoir redémarré avant le reste du monde, l'économie chinoise souffre. D'après les chiffres officiels, la production a baissé de 6,8% au premier trimestre, la consommation a du mal à reprendre, et puis la demande mondiale a chuté aussi. Bonjour Sébastien Lebelzik.
Bonjour Sophie.
Vous êtes à Pékin où vous observez ce redémarrage difficile, et l'une des conséquences de l'épidémie, c'est le spectre du chômage de masse qui plane sur la Chine. On n'avait pas vu ça depuis les années 80.
Oui, effectivement, depuis en fait la grande vague de privatisation des années 80, la Chine était plutôt habituée jusque-là au plein emploi, mais cette fois, après la guerre commerciale avec les États-Unis, c'est l'épidémie qui a mis un coup très dur à la croissance chinoise, qui est au plus bas depuis 40 ans. Les premières victimes de cette vague de chômage, ce sont évidemment les travailleurs les moins qualifiés. À la gare de l'Ouest, j'ai rencontré ce cuisinier. Il a 45 ans, mais il a l'air d'en avoir 20 de plus. Il a le visage buriné des travailleurs migrants. En Chine, on les appelle des Mingong. Ce sont des gens venus des campagnes et qui cherchent du boulot dans les grandes villes. Et ce sont eux les premières victimes du chômage.
Mais ils n'ont droit à aucune aide de l'État. Il n'y a pas d'équivalent des allocations chômage ?
Alors si, mais elles sont extrêmement limitées, ces allocations. Par exemple, les travailleurs migrants, qui sont plus de 400 millions en Chine, ils n'y ont pas droit. Ce sont eux, pourtant, les soutiens de la croissance, eux que l'on retrouve dans les usines ou les restaurants. Seuls 20% de ces travailleurs migrants ont un contrat de travail et ils échappent aux statistiques officielles. Souvent même, ils n'ont même pas le droit d'être là à Pékin parce qu'ils n'ont pas de ruko. Alors le ruko, c'est une sorte de passeport intérieur, un héritage de l'époque maoïste qui vous lie en fait à votre province natale. Sans ruko de Pékin, eh bien pas d'assurance sociale, et cet homme par exemple ne pourra pas accéder aux aides sociales ni même mettre ses enfants à l'école, mais il tente quand même sa chance.
Je suis cuisinier, j'arrive juste de la province du Shaanxi. Là-bas, à cause de l'épidémie, on n'avait presque plus de clients au restaurant où je travaillais. Ça n'allait pas bien du tout à cause de l'épidémie. On a fermé, alors je ne sais pas quoi faire. Je suis venu ici à Pékin pour chercher du travail. J'essaye d'abord ici, il paraît que ça peut marcher. Je vais voir ce que je peux faire, mais si je ne trouve rien, alors je devrais retourner chez moi. J'ai pris le bus de mon village natal et puis le train pour Pékin. Je viens d'arriver là.
Sébastien, les travailleurs migrants ne sont pas les seuls victimes du chômage.
Tout à fait, les jeunes sont aussi concernés. On estime même que cette année, un quart des jeunes diplômés chinois ne trouvera pas de travail. C'est du jamais vu dans le pays. Huang a 26 ans, il fait partie de ces jeunes diplômés chinois à qui tout souriait avant la crise. Eh bien aujourd'hui, il est au chômage, sans aucune indemnité, car en Chine, il n'existe, on l'a dit, presque aucun filet social. Et c'est donc seul qu'il traverse cette épreuve. Nous l'avons rencontré dans un café où il se rend chaque jour pour travailler, se former, en fait, seul, avec son ordinateur et avec quelques livres, dans l'espoir de retrouver rapidement du travail.
Tout le monde est concerné par le chômage. À cause de l'épidémie, on est nombreux, comme moi, à avoir perdu notre travail. C'est comme ça. Au début, je me sentais mal, misérable. J'étais déprimé. Je me sentais nul. Mais petit à petit, je m'en suis sorti. Et j'ai voulu être plus positif pour changer la situation. Je me suis rendu compte que j'ai perdu mon boulot parce que j'étais faible. Je devais donc être plus fort, le meilleur, pour que ça n'arrive plus. Si vous voulez garder votre poste dans ces conditions, il faut accepter tous les défis, se battre et être positif. Il y a des milliers de personnes au chômage. Alors si tout le monde déprime, le monde va s'effondrer.
Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est super déterminé, hein, ce jeune Wang. On se demande, Sébastien, que fait le gouvernement ?
Eh bien, le gouvernement, il parle beaucoup, il fait même de la lutte contre le chômage officiellement sa priorité. Et lors de l'Assemblée populaire qui s'est tenue cette semaine à Pékin et qui est la grande réunion politique annuelle du régime communiste, eh bien, malgré tout, aucune perspective de croissance n'a été donnée pour la première fois de l'histoire du pays. L'emploi est bien une priorité, mais concrètement, rien n'a été annoncé. Alors, Michael Petis, lui, est économiste. Il enseigne à la prestigieuse université de Beida à Pékin. Il est l'un des seul, sans doute parce qu'il est étranger, donc plus libre peut-être de parler, il est l'un des seuls à nous commenter ces chiffres du chômage.
Officiellement, le chômage est passé de 5 à 6% en gros. Mais évidemment, ces chiffres officiels ne nous disent rien. La plupart des personnes au chômage ne sont pas comptées dans les statistiques. Ce sont les travailleurs migrants, etc.
Donc ça veut dire qu'on n'a pas d'idée précise de l'ampleur du chômage de masse post-Covid.
Alors ce qu'il faut savoir, c'est que fin avril, un cabinet chinois d'analyse financière avait lui avancé des chiffres dramatiques. Plus de 20% de chômeurs et donc des dizaines de millions de travailleurs migrants, notamment sur le carreau. Mais par peur sans doute d'une montée de la grogne sociale, ces chiffres ont été censurés et l'économiste qui les avait publiés a même dû démissionner. Depuis, c'est un sujet tabou. Interdit en Chine, et c'est bien le signe certainement de cette fébrilité du régime communiste face à la crise.
Because of unemployment, a lot of households will have no income.
À cause du chômage, beaucoup de foyers n'auront pas de revenus, et pour ceux qui en ont encore, l'évidence, et ça d'ailleurs c'est valable pas seulement pour la Chine, mais pour la plupart des pays, l'évidence c'est que ces foyers vont réagir au coronavirus en faisant plus d'économies pour se préparer au choc futur. Donc cette combinaison, moins de revenus et plus d'économies, eh bien ça veut dire beaucoup moins de consommation, et pour générer de la croissance, parce qu'ils vont vouloir faire de la croissance positive et créer de l'activité économique, ils vont augmenter franchement les investissements publics dans des infrastructures, c'est-à-dire construire plus de ponts dont ils n'ont pas besoin, plus d'aéroports dont ils n'ont pas besoin, plus d'autoroutes dont ils n'ont pas besoin non plus. Et le résultat, c'est que la dette a augmenté assez rapidement ces dernières années en Chine, mais cette année, elle va sans doute augmenter encore 2 à 3 fois plus.
Ouais, c'est la course en avant, Sébastien, c'est ça ?
Oui, et le régime communiste doit absolument trouver une issue, car cette crise remet en cause, en fait, deux dogmes fondateurs du parti. D'abord, le fameux « enrichissez-vous » de l'ancien président Deng Xiaoping. Et puis, le principe d'une économie chinoise qui se veut puissante et solide sur ses fondations. Mais lorsqu'on sait que 60% de l'économie chinoise repose sur la consommation intérieure, alors forcément, ce chômage de masse fait peser un risque pour la deuxième économie mondiale. Vous savez, le régime communiste a construit sa légitimité sur cette croissance économique, sur l'enrichissement, sur la lutte contre la pauvreté. Le président chinois Xi Jinping, il s'est même engagé à supprimer la grande pauvreté en Chine en 2020. Mais apparemment, avec cette crise, ça sera compliqué. Et l'État reste, comme toujours, inflexible, droit dans ses bottes. Et donc, il refuse d'admettre que l'économie chinoise est gravement touchée. Il refuse aussi de reconnaître que ce chômage de masse est un camouflet pour son programme économique.
Ouais, vous le rappeliez, hein, cette croissance, elle est au plus bas depuis depuis 40 ans, et on verra dans les mois qui viennent si ça donne lieu à des mouvements sociaux à l'intérieur du pays. Merci beaucoup Sébastien pour ce décryptage d'une situation économique très tendue aussi en Chine. À bientôt.
À bientôt, au revoir.
Et cette tension, elle est mondiale évidemment dans le sillage de l'épidémie. Au Japon, on va l'entendre dans quelques instants, la pauvreté grimpe en flèche, et ce qui est nouveau, c'est qu'elle se voit. À tout de suite.
Europe 1, 13h-14h, les carnets du monde. Europe 1, les carnets du monde.
Et nous sommes avec vous, Sophie Larmoyer, jusqu'à 14h. Allez, on va prendre maintenant la direction du Japon, un pays qui semble avoir évité une catastrophe sanitaire, mais qui est confronté à une envolée de la pauvreté.
Au Japon, l'état d'urgence a été levé lundi dernier sur l'ensemble du territoire avec moins de 1000 morts pour 125 millions d'habitants. Le pays a finalement plutôt bien résisté au coronavirus, mais l'épidémie a fait basculer beaucoup de gens dans la pauvreté. Et cette paupérisation donne lieu à un élan de solidarité dans la population. Beaucoup de belles initiatives solidaires ont vu le jour. C'est tout ça qu'on va vous raconter avec Bernard Delattre à Tokyo. Bonjour Bernard.
Bonjour Sophie.
La pauvreté est désormais très visible, m'avez-vous dit en préparant l'émission. Les pauvres ne se cachent plus chez vous. Et ça, c'est très nouveau.
Ah oui, c'est nouveau. Dans ce pays où les mendiants n'existent pas, quémander sur la voie publique, c'était pas permis ici, on voyait également assez peu de sans-abri. Ils étaient relégués loin du regard, au fond des parcs, le long des canaux, sous des viaducs autoroutiers, etc. Mais quand l'état d'urgence a été instauré début avril, tout à coup, on a commencé à voir des SDF dans les galeries commerciales désertées, dans les jardins et les parcs fermés au public, etc. Et ça a effaré beaucoup de Japonais.
Et bon nombre de ces démunis sont des nouveaux pauvres en fait. Leur vie a basculé à cause de l'épidémie.
Voilà, c'est le cas notamment des réfugiés des cyber ou manga café, comme on appelait les travailleurs trop pauvres pour se payer un loyer et donc ils vivaient à l'année dans ces établissements. Et ces cafés étaient ouverts 24 heures sur 24, mais dorénavant, ils sont fermés. La plupart de ces gens sont à la rue. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, 40% des salariés n'ont pas un emploi régulier, juste un job précaire, sous-statutaire, payé à la journée, par exemple. Ces travailleurs-là sont évidemment les premiers à être licenciés quand ça va mal. Et la plupart n'ont pas droit aux allocations de chômage. Énormément de jeunes aussi sont frappés de plein fouet par la crise. L'Organisation internationale du travail a indiqué cette semaine qu'un jeune sur six dans le monde avait dû arrêter de travailler en raison de la pandémie. Eh bien, au Japon, c'est beaucoup plus. Un jeune sur deux, quasiment, 44%, est privé de revenus. Comme ces deux étudiants qu'on va écouter, ils finançaient leurs études avec un petit boulot qu'ils ont perdu à cause de l'état d'urgence et ils redoutent désormais de devoir arrêter l'université.
Quand le bar de nuit où je travaillais a fermé, j'ai été mis en congé sans solde. Je me suis renseigné, j'ai frappé à toutes les portes, mais on m'a dit que je n'avais droit à aucune indemnité. Du coup, pour moi, l'état d'urgence, ça a signifié zéro revenu et donc un seul repas par jour, pas plus. Des nouilles instantanées le plus souvent, c'est ce qu'il y a de moins cher. J'ai tenu le coup, mais ça a vraiment été dur et stressant. Je me suis posé beaucoup de questions sur mon avenir.
Pour moi aussi, la perte de mon boulot à cause de l'instauration de l'état d'urgence, ça a été super pénible à vivre. Après avoir payé mon loyer, il me restait 100 yens par jour, environ moins d'un euro pour me nourrir. Avec cela, je ne pouvais manger que du riz et des œufs, et le midi uniquement. Le soir, quand j'avais faim, pour éviter de faire un second repas, eh bien j'allais me coucher. Je trompais mon appétit en dormant, si vous voulez.
Des jeunes qui ne mangent plus à leur faim, on ne s'attend pas forcément à ça dans la troisième puissance économique mondiale. Hein. Mais Bernard, il n'y a pas d'amortisseurs sociaux au Japon, des aides financières exceptionnelles comme ça se fait ailleurs?
Oui, mais il y a tellement de formalités à remplir que ces aides mettent des mois à être débloquées. Or, il y a urgence. Beaucoup de gens ici ne peuvent pas se permettre d'attendre. Pour preuve, le gouvernement s'est engagé à verser 100 000 yens, 800 euros environ à chaque Japonais. Eh bien, 7 sondés sur 10 disent qu'ils utiliseront cet argent pour acheter de la nourriture et des produits de première nécessité.
Les femmes sont particulièrement victimes de cette paupérisation ?
Oui, parce qu'elles sont très nombreuses à avoir des emplois précaires. En plus, comme ici, l'éducation des enfants, c'est la tâche des mamans, quand les écoles et les crèches ont fermé, beaucoup de mères de famille ont dû quitter leur emploi pour garder leur môme. Au passage, Sophie, certains essayent de profiter de cette vulnérabilité, l'industrie du sexe.
L'industrie du sexe, on parle toujours des mamans qui ont perdu leur job, là ?
Absolument. Car des recruteurs sont envoyés dans la rue pour essayer de convaincre ces femmes de travailler dans des salons de massage, des boîtes à striptease, des bars à hôtesses, etc. On le sait parce que dernièrement, plusieurs de ces exploiteurs ont été piégés par des policières en civil qui se sont fait passer pour des mamans sans le sou qui cherchent un emploi. Plusieurs de ces individus sans scrupules ont été pris sur le fait alors qu'ils venaient de proposer des boulots louches à ces policières dans la rue.
Si l'État est à la traîne pour venir à la rescousse de tous ces nouveaux pauvres, alors c'est quoi, le secteur associatif qui se mobilise ?
Voilà, c'est le cas par exemple des banques alimentaires. Je me suis rendu dans l'une d'elles, dans un quartier de Tokyo, et les équipes sont débordées depuis 2 mois.
Il ne nous reste plus rien quasiment. En quelques semaines à peine, nos stocks de nourriture se sont volatilisés. Par exemple, on avait 300 kilos de riz dans la réserve. Eh bien, tout est parti. Au début de l'épidémie, ça allait encore, on n'était pas trop sollicités. C'est toujours un peu délicat de quémander de l'aide au Japon. Mais à partir de début avril, ça a basculé. On a été inondés de demandes. Je n'avais jamais vu ça. C'est là qu'on a compris que quelque chose de grave était en train de se passer, puisque tant de gens, visiblement, n'avaient plus les moyens de se nourrir correctement.
On voit beaucoup de mères célibataires dans les banques alimentaires. Avant l'état d'urgence, elles fréquentaient les cantines associatives qui, ici, offrent des repas gratuits aux enfants qui, à la maison, ne mangent pas à leur faim. Mais ces cantines ont fermé, ce qui pose problème à beaucoup de familles monoparentales. Écoutez ces deux mamans.
Mes deux ados mangent comme des goinfres. Alors le riz, la viande, le pain ou la confiture que je reçois ici, ça m'aide beaucoup.
Mes enfants ne pouvant plus manger à la cantine depuis que les écoles ont fermé, mon budget nourriture s'est envolé. Sans doute que sans ces dons, je ne m'en sortirai pas financièrement.
Alors voilà pour les associations. Il y a aussi beaucoup de particuliers, m'avez-vous dit, Bernard, qui se mobilisent pour venir en aide aux plus démunis.
Oui, c'est le cas de ce restaurateur, par exemple. Il a vraiment galéré ces deux derniers mois. Il ne pouvait faire que de la vente à emporter ou des livraisons à domicile. Et pourtant, depuis le début de l'épidémie, il offre chaque jour un bento, un petit plateau repas préparé, à une dizaine d'habitants de son quartier qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts.
Avec mon épouse, depuis un petit moment, on avait envie de faire quelque chose pour les gens dont le quotidien est difficile. Sans doute parce qu'on n'a pas toujours une vie facile, nous non plus. On a tous les deux grandi dans des familles monoparentales défavorisées. Cet état d'urgence a rendu les pauvres encore plus pauvres. On s'est donc dit qu'il était temps, c'était le moment ou jamais, d'essayer de rendre service aux habitants du quartier, de leur apporter un peu de réconfort.
Et puis aussi, Sophie, et c'est assez neuf ici, des tas de projets de crowdfunding, des cagnottes, ont vu le jour. Pour sauver de la faillite des restaurateurs, des exploitants de café-concert ou de cinéma de quartier, etc. Ou alors des agriculteurs qui ne pouvaient plus écouler leur production vu que toutes les cantines scolaires étaient fermées. Les gens se sont mobilisés aussi pour les sans-abri. À la télé, des reportages ont montré des SDF en train de réutiliser des masques qu'ils avaient trouvés dans la rue. Et ces images ont tellement choqué les Japonais que beaucoup ont fait des dons de masques aux associations qui aident les sans-abri. Les sans-abri qui, ici, avant l'épidémie, étaient nombreux à gagner un peu d'argent en vendant un magazine qui est un peu l'équivalent japonais du Macadam Journal, si vous voulez. Eh bien, des tas de gens se sont abonnés en ligne à cette revue quand ils n'ont plus pu l'acheter dans la rue à cause du confinement.
Est-ce qu'on peut dire, Bernard, que le regard des Japonais sur les pauvres a changé ?
Il faut nuancer. L'assistanat reste assez mal vu au Japon. Chacun a prié de se débrouiller pour s'en sortir. En revanche, et a fortiori dans des périodes dramatiques comme celle qu'on est en train de vivre, énormément de Japonais font du bénévolat dans des associations caritatives. Le problème, c'est que cet altruisme ne suffit bien sûr pas pour compenser les carences d'un État qui ne remplit pas son rôle d'amortisseur social. Et ça explique pourquoi, ces dernières années, le Japon a connu une paupérisation galopante que le Covid-19 vient encore aggraver.
Merci, merci Bernard pour ce coup de projecteur japonais. Et à très bientôt dans les Carnets du Monde.
Merci à vous Sophie, à très bientôt.
Et on verra tout à l'heure que les inégalités sociales sont accentuées par cette situation. On sera en Afrique du Sud pour le constater. Mais d'abord une petite parenthèse littéraire avec Nicolas Caro qui va faire son entrée dans un instant avec un très bon roman, bien sûr.
Chaque dimanche, de 13h à 14h, écoutez Le Monde changé avec Sophie Larmoyer. Et dans les Carnets du Monde, vous découvrez aussi des auteurs étrangers. Un livre dans le monde, c'est chaque semaine un roman que nous propose Nicolas Caro.
Monsieur Nicolas Caro, bonjour.
Bonjour Sophie.
Grâce à vous, on va retrouver quelqu'un qu'on connaît. On est peut-être même parmi les premiers à avoir parlé d'elle.
Mais c'est bien possible.
On file en Belgique retrouver Adeline Dieudonné, l'auteur de La Vraie Vie. Succès oblige, le livre a paru cette semaine au Livre de Poche.
Adeline Dieudonné, premier roman, effectivement, La Vraie Vie chez l'Iconoclaste à l'époque. Premier succès, vous vous souvenez, énorme phénomène à la rentrée littéraire 2018. Plus de 250 000 exemplaires vendus depuis. Elle est sortie de nulle part. Elle a raflé entre autres, le prix Renaudot des lycéens, le prix des lectrices de Elle. Elle était sur la sélection du Goncourt. Elle a raflé d'ailleurs pas mal de Goncourt étrangers, puisqu'évidemment, elle a été traduite dans toutes les langues.
Vous nous rappelez l'histoire?
C'est celle d'une jeune fille, 9-10 ans au début du roman. L'auteur ne nous donne pas son nom. Elle vit avec son frère Gilles, un peu plus jeune, et ses parents dans un lotissement un peu glauque en Belgique. Ça s'appelle le Démo. Toutes les maisons sont grises et semblables. La sienne est un petit peu mieux parce que c'est l'architecte du lotissement qui y habitait et donc il avait fait un effort pour sa maison. Le quotidien de la narratrice est un peu terne. Elle joue avec son frère dans la casse de voiture juste à côté en évitant de se faire prendre par le propriétaire, un type affreux. Chez elle, c'est un peu dur à cause de son père notamment. Il a trois passions dans la vie, la télé, le whisky si possible devant la télé et la chasse. Dans la maison d'ailleurs, il y a une pièce appelée la chambre des cadavres. La bien nommée parce que le père y expose ses trophées de chasse, il en est très très fier.
Et la gamine est terrifiée.
Oui, mais bon, elle ne rentrait pas dans cette pièce, ouais. Et ça va. Et en fait, elle essaye de faire comme si tout allait bien tout le temps, cette gamine. Elle s'amuse avec son frère et chaque soir, ils courent dès qu'ils entendent le marchand de glace. Donc, elle n'a pas une vie idyllique, mais c'est une enfant optimiste et qui se contente de ce que la vie lui offre. Sauf que la vie va justement lui faire un sale coup. Je ne peux pas vous dire quoi, puisque je vous laisse découvrir, mais il va se passer une chose horrible dont elle va être témoin avec son frère. Donc on est dans un roman d'enfance un peu joyeux, puis soudain, paf, la gifle, mais dans le style d'Adeline Dieudonné, c'est-à-dire avec une dose de détails qui confine au burlesque et qui fait baisser un petit peu la tension au bon moment.
Le burlesque dans l'horreur, ce qui permet finalement de dédramatiser.
Exactement, et c'est à partir de là que le roman débute vraiment. La narratrice est traumatisée par ce qu'elle a vu, et c'est rien à côté de son petit frère dont la petite lumière espiègle dans les yeux s'est éteinte. L'héroïne se donne donc un but, lui redonner le sourire, et pour ça, le plus simple, ce serait de changer le cours du temps, n'est-ce pas? En fait, elle se dit que sa vie a pris un mauvais pli, elle est dans la mauvaise branche, et donc elle va tenter de remonter le temps pour changer le cours des choses et ne pas assister avec son frère à ce triste spectacle. Je vous laisse découvrir encore une fois, et ça donne un roman superbe.
Ouais, moi j'ai découvert, je sais, et je confirme. Comment a-t-elle vécu ce succès, Adeline Dieudonné?
Eh bien, je l'ai appelée pour savoir, pour faire un petit débrief avec elle, presque 2 ans plus tard.
Évidemment, j'avais pas prévu le centième de ce qui m'est arrivé. Ma vie a changé du tout au tout, c'est-à-dire que mon métier déjà, parce que avant ça, je gagnais ma vie en étant assistante de production au cinéma, donc ça j'ai pu arrêter pour me consacrer entièrement à mon métier d'auteur. Donc ça très concrètement, c'est déjà énorme, et d'être sollicitée, qu'on me demande de participer à des projets avec d'autres gens que j'admire énormément, et impatiente de revenir, impatiente que ça recommence. J'ai vraiment l'impression d'être arrivée au bout d'un processus.
Justement, le deuxième roman, il arrive ?
Alors, elle a un peu la pression, puisque tout le monde lui en parle.
Bah oui.
C'était pas évident d'ailleurs d'écrire pendant la tempête de promotion et de voyage pour parler du premier roman, La Vraie Vie. Elle est quand même en train d'écrire le deuxième, ce sera sans doute pour 2021. Je lui ai demandé de quoi ça parle, mais en général, les écrivains détestent parler d'un livre qui n'est pas sorti. Mais vous, Sophie, vous m'avez dit,
Non,
Coco, il me faut de l'info. Donc, tu insistes un petit peu, donc j'ai insisté un petit peu.
De quoi ça parle ? C'est compliqué. J'aime pas beaucoup dévoiler, parce que déjà j'ai envie de garder la surprise pour les lecteurs, et puis c'est compliqué parce que je suis dans le processus d'écriture pour l'instant, donc j'ai pas le recul encore pour pitcher ou pour résumer le bouquin. Tout ce que je peux dire, allez, je vais quand même vous donner un petit indice, c'est que ça parle de survivalisme. Ça c'est je pense le thème principal du roman.
Le monde d'après, quoi, ouais, hein, en quelque sorte. On a un indice et on en reparlera sûrement donc à l'année prochaine. En attendant, on peut lire ou relire La Vraie Vie, le premier roman, au Livre de Poche. Merci beaucoup, Nicolas.
Merci, Sophie.
Et à tout à l'heure pour La Voix et Livre.
Ça marche.
Quant à nous, on va enchaîner Afrique du Sud et Norvège. Même virus, pas même conséquence.
Europe 1, 13h-14h, les carnets du monde.
Les carnets du monde nous emmènent parfois loin pour entendre comment est vécue la pandémie. Il est maintenant 13h32, Sophie Larmoyer. On va prendre la direction de l'Afrique du Sud, le pays qui compte le plus de cas confirmés de Covid-19 sur le continent africain.
60 millions d'habitants en Afrique du Sud, plus de 25 000 personnes qui ont été testées positives jusqu'ici au coronavirus. Et l'épidémie est encore dans une phase ascendante. Les cas se multiplient rapidement ces derniers jours. Et pourtant, après 2 mois d'un confinement strict, le gouvernement allège considérablement les contraintes à partir de demain. Il s'agit de relancer l'économie. On va retrouver Patricia Huon, notre correspondante à Johannesburg. Bonjour Patricia.
Bonjour Sophie.
On déconfine partiellement chez vous demain donc, levée du couvre-feu, réouverture de la plupart des commerces, des collèges, des universités. Pourtant, les autorités répètent que le pire de l'épidémie reste à venir.
Oui, et d'ailleurs, plus d'un tiers des nouveaux cas ont été confirmés au cours de la semaine dernière, et le comité d'experts qui conseille le gouvernement sud-africain prévoit un pic de l'épidémie entre fin juillet et début septembre. On en est donc encore loin. Mais il faut dire que l'Afrique du Sud pratique beaucoup plus de tests que les autres pays du continent. Ça fait partie de la stratégie du gouvernement. Et pour ça, des milliers d'agents de santé ont été déployés au sein des communautés et tentent d'identifier les personnes qui présentent des symptômes ou ont été en contact avec un malade. Voici Marie, agent de santé communautaire. Je l'ai rencontrée dans le township d'Alexandra.
C'est le formulaire de dépistage pour la Covid-19 dans les communautés. Je demande le nom, le prénom, l'adresse, là où la personne habite, la date de naissance, un numéro de téléphone. Et puis quand je dépiste, je pose des questions sur les signes et les symptômes de la Covid-19, comment ils se sentent physiquement, puis je prends la température aussi. S'ils ont plus de 38, s'ils ne se sentent pas bien, je leur conseille de se faire tester. C'est très important d'aller dans les communautés, d'éduquer les gens pour qu'ils connaissent les risques. Parce que maintenant, la Covid-19 est partout. Ils doivent savoir.
Jusqu'ici, plus de 600 000 tests ont été effectués. Et cette attitude proactive des autorités rassure plutôt la population. Surtout si l'on compare avec le déni du gouvernement d'alors lorsqu'une autre épidémie, celle du VIH-Sida, a ravagé l'Afrique du Sud. Mais il y a encore beaucoup de progrès à faire. Les laboratoires sont débordés. Il faut parfois attendre jusqu'à 2 semaines pour connaître les résultats des tests, ce qui rend la démarche quasi inutile. Et l'efficacité de la recherche des personnes qui ont été en contact avec un malade est pour l'instant aussi très limitée.
Outre cette campagne de dépistage massif, Patricia, l'Afrique du Sud a aussi mis en place très tôt un confinement très strict qui a eu des conséquences sociales douloureuses.
Oui, je vous propose d'écouter Judith. Quand je l'ai rencontrée, elle était assise avec sa sœur sur le pas de sa porte à côté d'une petite épicerie, également dans le township d'Alexandra, donc qui est un quartier pauvre et surpeuplé de Johannesburg et qui est situé juste à côté du centre des affaires de Sandton avec ses centres commerciaux et ses belles résidences.
Je faisais du recyclage, mais pour l'instant c'est fermé. Pas de travail, je reste comme ça à la maison toute la journée. J'ai 3 enfants, je fais des petits boulots si des gens veulent de la lessive, du repassage. On attend toujours l'argent qui nous a été promis. Et puis les colis de nourriture qui ont été distribués. Ça aussi, on nous l'a promis. Mais pour l'instant, on n'a rien reçu. Je ne sais pas ce qu'ils auraient dû faire, mais pas ce confinement. Peut-être prendre les gens qui ont le corona, les isoler et nous laisser travailler. Non, ce qui a été fait n'est pas bien. Et en même temps, peut-être que c'est bien à cause de cette maladie. Oui, j'ai peur. Je pense que c'est dangereux.
Le confinement a mis encore plus en avant les inégalités sociales en Afrique du Sud, déjà parmi les pires au monde, bien avant l'arrivée de cette épidémie. Des inégalités héritées de l'apartheid qui se dessinent encore trop souvent selon des lignes raciales. Dans un endroit comme Alexandra, il est pratiquement impossible de respecter la distanciation sociale quand on vit à 7 ou 8 dans une pièce, que plusieurs familles partagent une même toilette. Et ce n'est évidemment pas pareil que d'être confiné dans le pavillon d'une banlieue aisée.
Ouais, puis dans les quartiers pauvres, vivent en majorité des travailleurs informels, n'est-ce pas, qui nourrissent leur famille au jour le jour.
Exactement, ils sont plusieurs millions et du coup, la faim a fait son apparition dans les quartiers pauvres car un jour sans travailler, c'est un jour sans être payé et donc rapidement un jour sans manger. Le montant des aides sociales a été augmenté, mais cela reste minime et elle ne concerne pas tout le monde. Des colis alimentaires ont été distribués, mais là aussi, impossible de répondre à l'ampleur de la demande. Et il y a aussi eu des accusations de corruption des autorités locales lors de ces distributions.
Pourtant, Patricia, il n'y a pas eu d'explosion de colère dans les townships comme beaucoup l'avaient craint pourtant au début du confinement.
Non, il y a eu quelques incidents sporadiques, des pillages, mais pas de révolte. On notera que les forces de l'ordre et l'armée étaient beaucoup plus présentes et beaucoup plus brutales dans les townships et les quartiers populaires qu'ailleurs. À Alexandra, des militaires en patrouille sont accusés d'avoir tué un homme parce qu'il buvait une bière sur le pas de sa porte.
Ouais. On peut penser que la peur du virus a joué un rôle aussi ?
Oui, c'est sûr. Vous savez, l'Afrique du Sud a connu une pandémie, celle du sida, qui a décimé une génération. Ici, la mort, le deuil sont familiers. On sait qu'un virus peut tuer. Et j'ai été étonnée de constater combien de personnes, particulièrement dans les townships, malgré des conditions difficiles, même si elles veulent retourner au travail, continuent d'approuver les décisions qui ont été prises par le gouvernement. Alors que paradoxalement, c'est la classe moyenne qui se montre de plus en plus critique des règles qui ont été établies. Dans un pays où le respect des libertés individuelles est cher à la population, des interdictions qui ont été perçues comme sans fondement scientifique, l'interdiction de l'alcool, de faire de l'exercice, sont vues comme une dérive autoritaire. Donc à l'image de ce que m'a dit Brett, qui travaille comme producteur et vit dans le quartier de Melville à Johannesburg, donc un quartier assez cosmopolite qu'en France on pourrait qualifier de quartier bobo.
Beaucoup des règles qui ont été mises en place n'étaient absolument pas nécessaires et finalement ont causé du tort. J'ai le sentiment qu'en tout cas pendant la deuxième phase du confinement, les gens que je connais qui sont plutôt dans la classe moyenne ont commencé à arrêter de suivre les règles parce qu'elles étaient excessives.
Ne pas autoriser les gens à marcher ou faire de l'exercice est totalement inutile. L'interdiction de l'alcool et des cigarettes a non seulement endommagé ces industries, mais ce n'était pas nécessaire non plus. Ça a mis les gens en colère. Et comme toute prohibition, le résultat, ça a été la création d'un marché noir. Dimanche, je vais planter une tente devant le magasin d'alcool pour être le premier.
Ce Brett n'a pas exactement les mêmes préoccupations que Judith, hein, qu'on avait entendu un peu plus haut dans le reportage. Est-ce qu'il y a des aides prévues, Patricia, à commencer par les allocations chômage?
Oui, des aides ont été promises, alors que ce soit la caisse d'assurance emploi qui existait déjà, des aides pour les petites entreprises aussi, une allocation pour tous ceux qui n'ont aucune autre source de revenus, mais beaucoup peinent à y accéder. À Soweto, par exemple, le grand township au sud de Johannesburg, tous les jours, devant le bureau de l'emploi, il y a une longue queue de personnes qui ont perdu leur travail et qui n'ont toujours pas reçu leur allocation. C'est là que se trouvait Cello.
Je suis ingénieur électricien. Et donc, depuis la COVID-19, tout est fermé et il n'y a pas de travail pour moi. Mon patron m'a envoyé les papiers à remplir pour le chômage. Et il m'a dit que je devais venir les déposer moi-même. Et du coup, je suis là. Mais le service est tellement, tellement mauvais. On fait la queue. Il faut déposer ses documents dans la boîte aux lettres et il n'y a pas de personnel à l'intérieur. Moi, j'ai des enfants, des factures à payer. Je viens ici avec tous les bons documents. Mais obtenir l'argent pour laquelle ma société a cotisé est un combat. Je ne sais même pas si j'aurai du travail après, parce qu'on sous-traite pour d'autres sociétés qui nous donnent des contrats. Moi, je ne sais pas comment je vais survivre. Ma femme ne me sourit même plus, et moi non plus. Je n'ose plus sourire à cause de ces difficultés financières.
Voilà. Les conséquences économiques et sociales vont être désastreuses. L'économie sud-africaine se portait déjà mal. Le taux de chômage officiel frôlait déjà les 30%. Et là, c'est tout le monde qui va être touché par la crise, depuis la classe moyenne jusqu'aux plus pauvres. Alors, si vous y ajoutez la pandémie qui risque de faire plus de morts, surtout dans les quartiers les plus pauvres, le tableau n'est pas réjouissant en Afrique du Sud.
Ouais, effectivement, cette tension entre le risque économique et le risque sanitaire est particulièrement éloquente dans ce grand pays où vous vivez. Merci Patricia de nous avoir fait entendre ces Sud-Africains aujourd'hui. À bientôt.
Merci, à bientôt.
À suivre, une grande bouffée d'air dans le grand nord norvégien. Les journées y sont longues, c'est le soleil de minuit et il n'y a pas de touristes. Là-bas, on se prépare à un été calme, très calme.
On passe du grand sud au grand nord, direction la Norvège, finalement peu touchée par le coronavirus, mais qui ont subi tout de même des conséquences, Sophie Larmoyer.
Les mesures de distanciation physique ont été prises assez tôt en mars, mais pas pour très longtemps. Le pays compte moins de 240 victimes de la Covid-19 et encore tous au sud du pays. Le garçon que vous allez entendre vit, lui, dans l'extrême nord de la Norvège, le plus au nord possible en Europe, sur l'île de Magerøya. 3000 habitants. Il y a quelques semaines, ils avaient encore de la neige, mais ça y est, ils ont changé de saison. Et là-bas, ils vivent maintenant avec le soleil de minuit. Plus de nuit, il fait jour tout le temps. Jérôme Dernochek est un fidèle auditeur des carnets. Il est aussi guide touristique. Le virus, ils ne l'ont pas vu. Pour autant, les frontières restent fermées et la saison touristique est largement compromise. Écoutez.
Alors, la situation en Norvège a commencé assez tôt. Les premières mesures de quasi-confinement sont arrivées 4-5 jours avant la France, avant qu'il y ait trop de cas. Donc, dans les villes du sud, les grandes villes, c'est là qu'il y a eu un peu de virus actif. Mais ici, dans le Nord, on s'est tous confinés. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun cas. Alors, en tout, en Norvège, il y a eu par habitant 10 fois moins de cas qu'en France, à peu près. Donc, les premières semaines, on a eu un petit peu peur comme tout le monde. Et toutes les régions, les communes ont commencé à prendre des mesures dans tous les sens. Et ici, tout au nord du pays... région forcément très rurale et avec plein de communautés différentes isolées des unes des autres. On a eu un seul cas sur l'île qui a été isolé. Ils ont testé, je crois, ils ont dû tester une cinquantaine de personnes sur une population de 3000 ici. Et Et on n'a pas trouvé de deuxième cas. Alors, au début, on avait eu un petit peu peur parce que c'est une région touristique et on avait été exposé à des gens qui venaient de Milan, de Berlin, de Seattle, toutes les premières régions qui étaient touchées. Et puis qui sortaient de petits bateaux de croisière. Donc on s'est un petit peu isolé soi-même les premières semaines et en fait rien. Donc depuis, il n'y a eu aucune mesure ici. On s'est tout simplement barricadé du sud du pays. Et toutes les communes du nord et les régions du nord ont fait un peu un patchwork de mesures plus ou moins faire la va-vite et pas forcément légal, mais qui imposait une quarantaine aux gens qui venaient du sud du pays.
Ah oui,
donc un peu une frontière à l'intérieur du pays, comme ça. Et ce qui fait que alors, c'est un petit peu... tout le monde n'était pas d'accord, mais ça a eu l'avantage de se sentir vraiment en sécurité ici, temps qu'il y ait une vague à Oslo, le temps que les choses se résolvent un peu. Et donc non, je n'ai vu aucun masque en ville. On a mis des petites mesures dans les supermarchés où il y a des autocollants tous les mètres et tout ça, mais les ambulanciers, les infirmières se mettent au milieu et font personne fait attention.
Jérôme, vous n'avez pas été confiné très longtemps, mais finalement vous avez presque l'habitude d'être confiné, non ?
Oui, c'est une région où on vit avec beaucoup de météo, et surtout pendant l'hiver où il fait nuit pendant plus de 2 mois, il y a beaucoup de tempêtes. Donc on a l'habitude en fait de s'isoler, de se confiner, de sortir dans le blizzard pour aller au supermarché une fois par semaine. là-dessus, ça n'a pas changé grand-chose, sauf qu'il faisait jour. Mais après avoir parlé à pas mal à ma famille en France et dans d'autres pays où tout le monde avait un peu de mal à rester confiné chez eux... Pour nous, en fait, on sait exactement quoi faire, on a l'habitude, on a des réserves dans le congélateur, on est toujours prêts.
Est-ce que finalement, quelque part, secrètement, vous ne vous réjouissez pas que les énormes bateaux de croisière, ces monstres des mers, ne viennent plus pour l'instant et peut-être ne viendront plus jusque dans le nord ?
C'est une contradiction, mais ça faisait des années que c'était une partie de moi espérait que ça arrive, que tout ce modèle de ces énormes paquebots qui sont chaque année de plus en plus gros, de plus en plus commercial et qui amènent une population de moins en moins intéressée, qui voyagent en fait sur des centres commerciaux flottants et qui sont pas vraiment intéressés de là où ils vont. Et alors, d'un autre côté, on en vivait, mais on savait très bien que ça pouvait pas durer. On pensait pas que ça arriverait comme ça. Personne ne s'était attendu à une pandémie qui arrête tout d'un coup. Ouais. On pensait qu'un jour, il y aurait eu plutôt un accident, parce que tous ces énormes navires qui prennent le vent dans l'Arctique, on est passé proche d'accidents plusieurs fois. Non, on est assez content en fait, que ça se calme et qu'on puisse tout remettre à zéro et qu'on puisse enfin se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on veut vraiment ça ? Est-ce qu'on veut tous les bateaux ou est-ce qu'on peut mettre des règles ? Un peu comme toutes les autres villes où il y a trop de bateaux de croisière. Est-ce qu'on peut mettre des limites aux bateaux de croisière ? On veut seulement accepter les plus petits, par exemple, avec certaines règles. Si vous voulez une rente sur le Cap Nord aussi, ça faisait un ou deux ans qu'il y avait un énorme conflit politique. Et en fait, maintenant, ça vaut plus le coup de se battre parce qu'il n'y a plus personne au Cap Nord. J'y suis allé la semaine dernière, ça a réouvert, mais on était 5. C'était super. C'est un peu comme ça devait l'être à l'époque mythique, avec ce mythe qu'on vend un peu, qu'il y a 50 ans, quand les premiers explorateurs venaient, que il fallait 2 semaines pour venir, c'était compliqué, ça devait être comme ça.
Quand vous dites que c'est l'occasion finalement de remettre les compteurs à zéro, quel type de tourisme vous n'avez plus envie de voir là où vous êtes, dans le Nord ?
J'aimerais bien voir un tourisme qui reste un peu plus longtemps. On ne veut plus vraiment voir de bateaux de croisière qui viennent, qui restent 4 heures dans le port, laissent un gros nuage de fumée et puis des frais de port et d'entrée, de tickets d'entrée et rien d'autre, qui ne font pas vivre la population locale en fait.
Jérôme, comme beaucoup de gens qui vivaient du tourisme dans le Nord, vous êtes au chômage technique, c'est ça ? Il y a des aides qui vous sont apportées par l'État ?
Oui, alors des aides assez généreuses. Alors d'abord, tout le pays a reçu, ou va recevoir, parce que ça met un peu de temps à se mettre en place évidemment, aura les 3 premières semaines de semi-confinement payé à 100%. Et ensuite, on a droit à 6 mois de chômage technique, qui doit tourner autour de 65%. Puis après, on verra bien au fur et à mesure quelles seront les autres mesures nécessaires. Mais c'est un pays qui a un énorme fonds souverain. Et si jamais ils doivent taper dans la rente pétrolière, la population
ne s'attend pas trop à vivre une crise et un moment difficile financièrement, pour, même si ça devait durer un an.
Du coup, Jérôme, vous me disiez que ça faisait 15 ans que vous aviez bossé tous les étés comme un fou, parce que c'est la saison touristique. Là, cette année, ben là, ça y est, c'est le soleil de minuit, vous avez des très très grandes journées et vous êtes au chômage technique, alors vous allez faire quoi ?
C'est super, on va en profiter, on peut se balader, on peut... aller dans les montagnes un petit peu. Alors là, on a eu un hiver avec une neige record et là, on a des chaleurs records, donc il y a des rivières partout. Ouais. Faut attendre que ça se calme un petit peu pour aller se balader dans les montagnes. Mais on peut déjà profiter du soleil et on a eu des belles nuits ensoleillées où on a pu bronzer un petit peu, s'asseoir en terrasse toute la nuit.
Les journées vont pas être trop longues là, avec le soleil de minuit ?
Non, parce que si on habite ici, on a l'habitude de s'ennuyer, on apprécie. Normalement, c'est juste 3 mois d'été où on vit à 100 à l'heure. Et cette année, on va pouvoir en profiter de ce que l'environnement a à offrir. Ça, ici, il y a un certain calme et un peu de lenteur. Et je connais beaucoup de gens qui travaillent dans le tourisme aussi et qui sont soit au chômage, soit très sous-employés pour l'été. Et non, on va faire avec, hein. Ça sert à rien de stresser, ça sert à rien de trop s'inquiéter,
Situation inédite.
On a une année pour en profiter.
Ouais, c'est ça, pour vous ennuyer tranquillement et faire la fête.
Exactement, enfin, oui, voilà, les deux.
Prendre le temps de s'ennuyer, c'est pas mal aussi comme programme. Si comme Jérôme, vous écoutez les carnets depuis l'étranger et que vous avez des choses à nous raconter, n'hésitez pas, écrivez-nous à l'adresse de l'émission lescarnetsdumonde@europe1.fr. Je réponds, c'est promis. Dans un instant, on accueille Joseph Chovanec qui nous emmène en vadrouille en autiste.
Les carnets du monde sur Europe 1. Europe 1, les carnets du monde.
Partout dans le monde, les reporters et correspondants d'Europe 1 racontent, explorent d'autres cultures. Il est déjà 13h53, Sophie Larmoyer. Vous connaissez notre dernière destination. Comme chaque dimanche, on part faire un petit tour en autistan avec notre guide personnel, Joseph Chovanec, philosophe, autiste Asperger et voyageur, bien sûr.
Et depuis 2 mois, il est en Belgique. Bonjour Joseph.
Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde.
On s'en aperçoit quand on circule un peu, par exemple, pour venir travailler à Europe 1, hein, sur les trottoirs, il y a des encombrants. Les gens ont pas mal profité de ces semaines de confinement pour faire un grand tri chez eux, sans doute. Et ce bric-à-brac vous inspire, Joseph?
Mais oui Sophie, les gens font le grand ménage de printemps. Mais quand on entre dans la partie la plus sombre de la maison, dans le débarras, qu'est-ce qu'on trouvera? Alors ne stressons pas, dans chaque maison d'appartement, pourtant, s'il y a des lieux moins glorieux, c'est la nature des objets qu'on y trouve qui dépend des pays ainsi que du type de gens qui habitent la maison, autistes ou pas.
Quand vous voyagez, vous explorez les débarras des gens chez qui vous allez, vous ?
Mais oui, j'ai eu la chance de mettre les pieds dans un grand nombre d'habitations. Je ne suis pas Sherlock Holmes, mais en me rendant aux toilettes ou à la cave, je regarde attentivement. Première grande surprise, hors d'Occident, souvent on accumule les restes d'animaux. Les fourrures, ça m'a frappé dans les maisons d'hiver en Sibérie profonde. Elle sert de lieu de stockage, cette maison d'hiver. Certes, c'est un peu pour tenir au chaud, mais les fourrures avaient aussi un rôle de compte en banque des gens, un peu comme par exemple les lingots d'or en Occident.
Ouais, c'est-à-dire que les objets stockés sont un peu le bas de laine de la famille.
Oui, et on retrouve un peu de cela dans l'une des zones qui me fascine le plus, à savoir cette zone de contact entre culture arabe et culture d'Afrique noire. Par exemple, chez les Nubiens, entre Égypte du Sud et Soudan du Nord, pour faire simple. Dans les maisons traditionnelles, il y a une pièce avec une suraccumulation d'animaux desséchés. Et c'est sans doute cela qu'est née la momification. Pas de maison nubienne digne de ce nom sans un stock invraisemblable de crocodiles séchés, peau de reptiles, momies de chats, etc.
Quelle drôle d'idée. Mais à quoi servent-elles ?
Ah, mais c'est tout un univers culturel. Au début, on est un peu perturbé, mais à la longue, ça marque l'esprit. En termes de quantité, je crois que l'accumulation la plus invraisemblable d'objets de toute l'histoire fut celle de la cité interdite de Pékin. Pendant tant de siècles, le pouvoir impérial chinois entassait les cadeaux qu'il recevait dans des milliers de salles, vases, toiles, tout un bric-à-brac qui dépasse l'entendement.
Ça faisait comme un musée, du coup.
Oui, mais aujourd'hui, la cité interdite est vide. La raison est très simple. Au moment de la débâcle militaire des nationalistes, on a ramené tout le contenu de la cité interdite à Taïwan. Et donc, pour voir la cité interdite, il faut aller à Pékin, mais pour apprécier son invraisemblable contenu, il faut aller à Taipei. Hein. Et je crois que pour comprendre les choses, si on devait choisir entre les deux, il est plus éclairant de voir le précieux bric-à-brac que les murs vides.
Quel est le dernier bric-à-brac qui vous a marqué, Joseph?
Pas plus tard qu'hier matin, j'ai fait une drôle d'expérience. On m'a fait venir pour arranger une salle pour les examens de certains étudiants handicapés dans mon université, celle de Louvain en Belgique. Mm-hmm. Et au fond de la salle, il y a une sorte de vitre. On pouvait voir que la salle continue dans l'obscurité derrière la séparation. Et là, un grand nombre d'objets bizarres. J'ai voulu en savoir plus. Moment de stupéfaction. J'avais mis les pieds dans le débarras du défunt professeur Lemaître. Alors, le nom ne dira pas forcément grand-chose, mais il ne s'agit pas moins que du hautement excentrique découvreur du Big Bang, ami proche d'Einstein, ressortissant de l'autistan sans doute. Mais à l'université, il était surtout connu pour ses excentricités, pour le chahut terrible qui régnait pendant ses cours, car il ne savait pas faire cours, pour sa passion dévorante pour les ancêtres des ordinateurs. Bref, j'ai eu mon moment de flottement, cette impression d'être hors du temps face à des monstres à calcul surgis des temps révolus.
C'est un trésor de vieux composants électroniques auxquels personne n'avait osé toucher, sans doute.
Oui, et même vive le bric-à-brac. N'oublions cependant pas de garder quand même au moins un petit peu d'espace dégagé pour vivre.
C'est ça. Là, on est loin du dépouillement à la japonaise dont vous nous parlez parfois. Merci beaucoup, Joseph. À dimanche prochain.
À tout bientôt.
Et c'est l'heure de refermer les carnets du monde. Merci de nous avoir accompagnés et merci d'avance pour les messages, les témoignages que vous nous enverrez peut-être depuis l'étranger sur l'adresse lescarnetsdumonde@europe1.fr. Marc Fréjean a réalisé cette émission, Florence Gimalak m'a aidé à la préparer. Merci à la fine équipe.